C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent, Anne-Cécile Brun.
Bonjour, 100 millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté d'ici 2030 à cause de la dégradation de l'environnement. Ce chiffre tout droit sorti d'un rapport de la Banque mondiale s'explique aisément. Les plus pauvres dépendent étroitement des ressources naturelles pour se loger, se nourrir et s'abreuver. Venez avec nous et vous comprendrez pourquoi l'association Nebedaï au Sénégal et le WWF à Madagascar qui se battent auprès des populations contre la déforestation mérite toute notre admiration. En 2100, un terrien sur trois sera africain. Selon l'Institut français d'études démographiques, la population du continent va être multipliée par 5 au cours de ce siècle pour atteindre au minimum 4,5 milliards de personnes. Il est donc urgent, surtout dans cette partie du monde, d'apprendre à gérer durablement les ressources naturelles. Et c'est justement la philosophie de l'association sénégalaise Nebedaï que vous avez créée. Jean Gueub, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de passage à Paris, donc on est ravis de vous recevoir. Le Sénégal est un peu dans nos studios, grâce à vous, dans ce studio 22 de RFI. Alors rappelez-nous, pour qu'on comprenne bien l'histoire, pourquoi est-ce que vous avez créé Nebedaï en 2011 ?
En fait, on est parti du constat que les ressources naturelles sont en train de disparaître au Sénégal, en particulier les forêts et puis également le poisson se faisant de plus en plus rare. Et justement, comme vous le disiez, c'est souvent suite à la croissance démographique et à la pression humaine sur ces ressources-là. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on agisse sur les ressources, mais qu'on aide aussi les gens, parce qu'il y a beaucoup de pression humaine sur les ressources, des fois parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On est quand même dans un pays où il y a encore beaucoup de gens qui galèrent, qui tirent le diable par la queue, qui n'ont pas résolu leurs besoins premiers de santé, nourriture, et donc exploitent au jour le jour les ressources. Et des fois,
plus de 80% de la population, par exemple, utilise du bois de chauffe pour cuisiner.
Effectivement, donc plus de 80% l'utilisent. Et en fait, on est passé en 60 ans de 7 millions à 14 millions de Sénégalais. Et dans le même temps, on a perdu la moitié de nos forêts. Donc, c'est ça la situation. Et donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est dit, on va essayer de, à la fois, restaurer les ressources naturelles quand on le peut, sauver ce qu'on peut encore sauver, et surtout aussi travailler sur du développement local pour ramener des revenus en zone rurale, et également des énergies de substitution pour moins prélever de ressources, en particulier de bois.
Alors, vous allez nous donner vos recettes qui vont intéresser beaucoup de nos auditeurs, parce que ce que vous dites là est valable pour de nombreux pays. Alors, déjà, au Sénégal, vous voyez petit à petit l'environnement se dégrader au-delà des chiffres que vous venez de nous donner.
Oui, non, c'est terrible. Moi, j'ai grandi dans la capitale, à Dakar, quand j'étais gosse. On voyait des vents de sable à partir du mois d'avril, mai. Il y avait peut-être 10 jours de vents de sable. Donc le vent de sable, c'est ces espèces de poussières qui rendent tout l'air rempli de sable, en fait, très fin. Et on le voyait au mois de 10 jours par an. Aujourd'hui, on le voit, mais je ne sais pas, peut-être 30, 40 jours par an. Et surtout, on le voit au lendemain de la saison des pluies. Donc l'hivernage fini et on rentre dans les vents de sable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas avant.
Et en quoi les vents de sable sont liés à la dégradation de l'environnement ?
Bon, je pense que ces vents de sable sont liés au fait qu'on a complètement déforesté le nord et l'est du pays. Et donc, il n'y a plus rien qui retient le sol. Et donc, aujourd'hui, il suffit qu'il y ait du vent du nord-est et ça met tout le sable en suspension dans l'air et provoque ces vents de sable, ce qu'il n'y avait pas avant. Et puis, on constate cette année, j'étais le 15 août en Casamance, donc la partie la plus sud du pays, là où il pleut normalement le plus, et le 15 août, toutes les rizières étaient vides. Pas d'eau dans les rizières le 15 août. Donc, personne n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que les pluies sont arrivées très tardivement. Alhamdoulilah, ça y est, elles sont là. Depuis le 16 août, il pleut. Ça fait 3 semaines qu'il pleut au Sénégal. Donc c'est cool.
Mais du coup, des pluies violentes, soudaines, sur des sols érodés, Ça, c'est compliqué pour les paysans?
Oui, parce que c'est souvent des eaux, ce qu'on appelle, ne sont pas des pluies utiles parce qu'elles ne rentrent pas bien dans le sol et au contraire, elles érodent le sol, elles amènent la terre riche de surface. Donc, c'est vrai que c'est un problème, mais quand même, au moins il pleut, ça va quand même un peu charger les nappes. Mais par contre, voilà, c'est des choses incroyables. Pareil, dans le village de Nemaba, qui est pas très loin du bureau principal de Nebedaï.
C'est-à-dire qui est où?
Qui est à Toubakouta, dans la région de Fatick. Et en fait, on y a une mare qui était permanente et cette année, elle a été complètement asséchée dès le mois de mai. Donc, je veux dire, les effets du changement climatique, on les vit. Il y a tout un tas de villages où, dans leurs puits, ils n'ont plus d'eau. Et donc là, on parle carrément de l'eau à boire. Donc, les gens ne se lavent plus, ils n'ont plus d'eau, ils sont obligés de louer des charrettes, aller dans des villages à 3-4 kilomètres pour remplir de l'eau. Ça leur coûte cher s'ils n'ont pas de charrette. Il y a des gens qui ne se lavent plus. Ça devient compliqué, c'est-à-dire l'accès à l'eau, parce que les nappes, ça sèche, quoi. Et il ne pleut pas assez, très
et
tard.
Et il fait plus chaud.
Il fait plus chaud. Et donc, en zone sahélienne et dans une population où on est pauvre, ça devient vite dramatique.
Et alors ça donne quoi? Les populations se déplacent? Pas encore?
On n'en est pas encore là, mais voilà, j'étais récemment dans un village où on est en train de voir comment soutenir les femmes pour développer leur activité génératrice de revenus. Le sujet, il est parti sur l'eau, parce que dans leur puits, c'était une catastrophe. Bon, on était au mois de juillet, en plus, il n'y avait toujours pas eu de pluie, il y avait de la saison des pluies, donc les nappes ne se rechargent pas. Bon, maintenant, ça va un peu mieux. Mais donc, oui, ben c'est... quand il n'y a pas d'eau dans un village, tu bouges, hein. Donc ça, c'est sûr.
Donc vous avez créé Nebedaï, on le disait, en 2011 pour réagir face à la dégradation de l'environnement. Mais en fait, depuis, vous voyez que ça empire. Donc il faut garder la foi.
Oui, c'est pas simple parce qu'on a perdu, on perd en tout cas ce que les chiffres nous donnent, c'est 215 hectares de forêt par jour. Ça fait à peu près 300 terrains de football par jour au Sénégal, en superficie.
Alors essentiellement pourquoi? Pour défricher pour l'agriculture, pour le bois de chauffe?
Oui, pour les énergies, donc bois de chauffe, charbon de bois et aussi les surfaces agricoles. C'est les trois principales raisons. Il y a un peu de bois rare, précieux pour l'exportation, mais c'est vraiment pas la majorité. Et c'est les besoins, quoi, les besoins surtout de bois énergie et l'agriculture.
Alors pour le bois énergie, vous avez innover avec la création du charbon vert. Alors, on avait réalisé un reportage avec Sarah Sacco en 2015. C'était au tout début donc, de votre activité. Je vous propose de l'écouter et ensuite, vous nous direz ce qui a évolué.
Je prends d'abord une charrette pour aller couper et ramasser la paille dans la forêt. Ces pailles proviennent des champs de maïs ou de mil. Je les prends, puis je les dispose dans ces tonneaux pour les brûler pendant une heure. Pour nous, c'est un vrai bénéfice. En revendant cette paille, on peut gagner jusqu'à 1700, voire 2000 francs CFA.
Puis la paille carbonisée est mélangée à de l'eau et de l'argile. Ce produit est ensuite transporté dans une autre localité, à Sokone. C'est ici, dans les locaux de l'association Nebedaï, qu'on procède à une opération de presse.
Voyez, ceci est de l'argile. Pour 52 kg de paille, on ajoute 1 kg de gomme arabique. Et on arrose le tout avec environ 20 litres d'eau pour former une masse compacte. Ensuite, on met cette matière dans la presse, qui la moule en petites briques. Ces briques mesurent en moyenne 15 cm de long. C'est une dimension conçue pour les petits fourneaux.
Pour mieux intégrer ce nouveau produit, l'association Nebedaï forme les femmes des villages proches de cette forêt à la transformation de produits locaux. Dans leurs activités, ces groupements de femmes utilisent le charbon de paille. Lorsqu'il s'agit par exemple de produire du café, les graines sont d'abord carbonisées à petit feu avant d'être pilées, comme l'explique Nafissa Toudiouf, l'une de ces femmes.
Avant, nous allions dans la forêt pour couper du bois. Ça nous permettait de préparer nos repas. Mais on s'est rendu compte que couper le bois était une perte, car à force, les forêts disparaissaient. Maintenant, après la saison des pluies, nous allons récolter la paille dans la forêt afin d'en faire du charbon. C'est ce charbon que nous utilisons pour cuisiner, faire du thé et préparer nos produits locaux.
Oh, Jean Gueup, est-ce que la technique du charbon de paille a évolué à Nébédaï?
La technique n'a pas beaucoup évolué. Bon, il y a quand même des presses aujourd'hui motorisées qui permettent un meilleur rendement et donc de produire plus. Ce qui est le défi de la filière, c'est le changement d'habitude. En fait, c'est un combustible qui fonctionne très bien, mais qui fonctionne différemment du charbon de bois. Et dans nos débuts, on pensait que tout le monde allait se l'approprier. On s'est rendu compte que ce n'était pas si facile que ça, parce que c'est un combustible qui est un peu moins puissant, qui a des avantages vis-à-vis du charbon de bois, parce qu'il ne fume pas, il n'explose pas. C'est considéré comme des avantages par les gens qui l'utilisent. Par contre, il est un peu plus lent. On ne peut pas l'éteindre non plus. Et le grand problème, c'est le changement d'habitude. Donc c'est des choses qu'on n'avait peut-être pas intuitées au départ et auxquelles on a été confrontés. Donc du coup, aujourd'hui, on a d'autres stratégies de marketing et de diffusion, parce que la fabrication, c'est pas le problème. La paille, on a en pagaille, et d'ailleurs, en la prenant, on réduit les feux de brousse, donc c'est plutôt bien. On valorise des choses qui étaient nuisible, puisqu'elle diffusait des feux de brousse. Et le défi, c'est vraiment réussir à bien le marketer, bien le packager. On le vend, par exemple, sur la capitale, dans des paquets très propres, dans des petits supermarchés, qui, on le vend pour l'utiliser pour le turaï et le thé. Le turaï, c'est une sorte d'encens local, une pratique très fréquente chez les bonnes dames sénégalaises, et le thé qui est également quelque chose qu'on fait traditionnellement. Et pour ces deux usages-là, on est toujours satisfait du charbon de paille. Pour les autres usages, ça marche, mais tu dois changer tes habitudes. Et là, on travaille plutôt avec directement les usagers, les consommateurs.
Alors, quelle est l'ampleur de la diffusion aujourd'hui au Sénégal?
Peu et trop peu. Il faut qu'on progresse encore, mais il y a beaucoup d'espoir, parce que aujourd'hui on a des clients fidèles. C'est-à-dire que avant, sur une campagne de com, on arrivait à vendre 5 tonnes dans la journée. Aujourd'hui, on préfère vendre 5 kilos à des personnes qui vont revenir la racheter. Donc le client fidèle, c'est essentiel, et aujourd'hui on en a aussi bien pour le charbon, pour faire du thé, du turaï, mais certains aussi qui l'utilisent quotidiennement pour faire la cuisine.
Oui,
et donc
que
ça nous donne
même
beaucoup d'espoir.
Il faut rappeler qu'un kilo de charbon de paille, c'est l'équivalent de 5 kilos de bois.
Exactement.
J'ai bien révisé ma leçon.
Exactement, exactement. Donc à chaque kilo de charbon de paille, on sauve 5 kilos de forêt. Donc c'est déjà ça de sauver. Et donc on a de l'espoir de continuer, on s'accroche. On pensait que ça allait être beaucoup plus facile, ça ne l'est pas. On pense aussi, on lance un appel au gouvernement. On pense qu'on est d'autres, hein. Il n'y a pas que Nébédaï qui fait des biocombustibles. Je pense qu'on devrait être soutenu parce qu'on est forcément en concurrence avec le charbon de bois, et pour le sortir moins cher, c'est très difficile. Et les dames qui le produisent, elles y arrivent, mais elles gagnent trop peu d'argent. Si on arrivait à le vendre deux fois moins cher que le charbon de bois, parce qu'il serait subventionné par l'État pour sauver les forêts, dans ce cas-là, il y a beaucoup de clients qui l'achèteraient et qui feraient l'effort de changer d'habitude parce que c'est deux fois moins cher. Aujourd'hui, on est à peine moins cher, et donc ça ne justifie pas forcément un changement d'habitude chez des gens qui n'ont pas la conscience environnementale.
Voilà, l'appel est lancé. Alors, le combustible, c'est bien, le foyer, c'est bien aussi. Et là aussi, Nébédaï agit, vous fabriquez des foyers améliorés, particuliers, vous sensibilisez la population à leur utilisation.
Oui, alors le charbon, il faut savoir que le charbon, il est surtout utilisé en zone urbaine au Sénégal, dans les villes. En zone rurale, là où il y a encore du bois, les gens cuisinent surtout au bois, parce qu'il est gratuit, accessible, pas cher, même si on met 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps à aller chercher son fagot qu'on porte sur la tête.
Donc c'est long à aller chercher,
c'est long,
ça déforeste, ça pollue, parce qu'il y a beaucoup de fumée, c'est pas bon pour la santé ni pour le climat, puisqu'on relâche du carbone.
Exactement.
Donc vous avez créé des foyers qui consomment moins.
Ils consomment moins, ils consomment entre 50 et 60% en moins. Et surtout, le gros avantage de nos foyers, c'est quelque chose de classique, c'est qu'en fait, ils sont en argile, en paille et en boue, c'est-à-dire en banco, et que c'est des matériaux qu'on trouve entièrement localement et qu'on forme les gens localement à les fabriquer eux-mêmes. Et donc, on amène un foyer amélioré avec les matières premières qui sont trouvées localement et qui est fabriquée localement. Et beaucoup de femmes au Sénégal connaissent les avantages du foyer amélioré et aimeraient bien en avoir un. Mais souvent, quand on leur demande pourquoi vous n'en avez pas un, on leur dit « c'est trop cher et je ne sais pas où l'acheter ». Eh bien, nous, on propose une solution qui est gratuite et on le fait Et on forme les gens à les fabriquer eux-mêmes. Et donc, on a plusieurs villages, notamment dans le delta du Saloum, comme le village de Bassar, où les dames, en l'espace de 3 mois, elles ont fabriqué 120 foyers améliorés et eux tous sont utilisés quotidiennement dans les cuisines.
Voilà, et donc les femmes forment les femmes.
Les femmes forment les femmes.
Vous misez sur les femmes.
Exactement, on mise sur les femmes. Alors, on mise sur les femmes, sur la femme africaine, parce qu'elle est... sérieuse, battante, travailleuse et solidaire. Elles sont solidaires entre elles. Et donc, on pense que c'est vraiment le moteur de l'Afrique, le pilier de l'Afrique. On mise aussi sur les enfants, parce que c'est eux les adultes de demain. Et donc, on est beaucoup dans les écoles à faire de l'éducation environnementale et on fait des grandes campagnes de reboisement aussi avec les enfants cette année et on va le faire de plus en plus.
Alors, on va parler plantation, reboisement, reforestation avec vous, Jean Gueup. Dans un instant, on fait une petite pause musicale et ensuite, cours de reforestation. Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie de Jean Gueup aujourd'hui, fondateur de l'association sénégalaise Nebedaï. Jean Gueup, on l'a entendu, donc vous faites connaître au Sénégal le charbon de paille, vous distribuez des foyers améliorés et vous vous battez contre la déforestation en plantant des arbres. Alors, on reçoit beaucoup de mails à C'est pas du vent de gens qui plantent des arbres, hein. C'est très tendance, j'ai envie de dire. Après, il y a quel choix d'arbres ? Comment on les plante, où on les plante, et vous, vous avez une grande expérience du sujet, donc expliquez-nous la replantation, enfin la plantation d'arbres version Nebedaï.
Alors la plantation d'arbres version Nebedaï, elle est très diversifiée, parce qu'on plante de tout un tas d'espèces différentes, dans tout un tas d'endroits différents. Alors il y a des arbres, en fait le plus dur d'en planter des arbres, c'est pas de les planter, c'est qu'ils vivent. Alors je pense aussi qu'il y a des coins du monde où tu plantes un arbre, c'est sûr qu'il va vivre. J'imagine qu'il y a des endroits dans les forêts tropicales humides, quand il pleut beaucoup, quand il n'y a pas de divagation du bétail. Il faut savoir qu'au Sénégal, il y a trois choses qui tuent un arbre. Les trois principales choses, c'est la sécheresse, parce qu'on a 8 mois sans une goutte d'eau qui tombe. Hein. La divagation du bétail, on a énormément, on a plus de 8 millions d'animaux qui divaguent, zébus, moutons, chèvres.
Ils aiment bien les petites feuilles vertes.
Bah, c'est ça, quand eux aussi ils souffrent de la sécheresse, donc s'ils voient une petite feuille verte, ils la croquent. Et puis l'autre chose, c'est les feux de brousse. Donc ces trois choses-là quand même tuent énormément d'arbres. Donc planter c'est bien, mais le plus important c'est qu'ils vivent. Et là c'est plus compliqué. Donc, il y a certains arbres qu'on plante où on est sûr que ça va réussir, genre du palétuvier en écosystème de mangrove. Là-bas, chaque marée haute, ça arrose les arbres. On est en zone humide, il n'y a pas de feu de brousse. Et souvent, c'est planté dans ce qu'on appelle le poteau-poteau, c'est de la vase.
Donc, inaccessible pour les animaux.
Inaccessible pour les animaux. Donc, les trois facteurs qui tuent les arbres ne sont pas là. Et là, on a 100% de réussite. Donc, on plante du palétuvier. On plante des rogniers. Alors, le palmier rognier, c'est un arbre qui a la particularité, en première année, de développer que son appareil racinaire. Donc, il fait une racine qui va à 2 mètres, 2 mètres 50 de profondeur, lui permettant d'accéder à l'eau, déjà. Donc, par lui-même, après, il est capable de boire. Et c'est qu'en deuxième année qu'il commence à développer son appareil aérien. Et donc, c'est un arbre très résistant qui arrive à se gérer au niveau de l'eau et qui est très charnu, donc il peut même des fois résister à des feux de brousse qui passent souvent, c'est la paille qui brûle, c'est des feux qui passent très vite, qui peut tuer les jeunes arbres, les arbres adultes en général ne brûlent pas. Donc on plante de ça, et puis après on plante 37 espèces différentes d'arbres, allant du caïcédra à des fruitiers, comme
et
le manguier.
Et le fameux moringa.
Et on plante également du moringa oleifera. Mmh. Et là on plante, alors il y a des arbres qui sont très compliqués, très coûteux à planter, c'est ceux qu'on plante par exemple dans les écoles, où on met un petit système d'irrigation, où chaque arbre a sa protection, mais c'est des arbres qui réussissent très bien, puisque chaque enfant est parrain de l'arbre, et donc s'en occupe très bien, en plus enfin d'année, on fait une petite évaluation. Les enfants qui se sont mieux occupés des arbres, on les emmène en camp nature. Donc,
il y a une stimulation.
Il y a une stimulation. Et donc là, ça marche très bien. Mais là, ce n'est pas beaucoup d'arbres. Mais c'est des arbres qui ont pour nous beaucoup d'importance parce que ce sont les générations futures qui sont en train de les planter, de s'en occuper. Donc, c'est les adultes de demain qui sont en train de planter ces arbres-là. Donc, on aime bien faire ça et on va le faire de plus en plus avec les enfants. On plante dans des périmètres agroforestiers. On plante le long d'axes routiers. On plante dans les villages, donc devant les maisons, chaque personne fait son trou et trouve sa protection pour protéger son arbre.
Des arbres qui peuvent permettre aussi de créer ce qu'on appelle les fameuses activités génératrices de revenus, c'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent avec le fruit des arbres.
Alors, dans les îles, par exemple, on plante du dittar, le Dittarium sénégalensis, qui donne un fruit vert très vitaminé, qui donne un excellent jus et de bonnes confitures. Donc, celui-là, effectivement, il peut ramener des revenus. Aussi, on a fait des tests sur la pomme cajou, l'anacardier, celui qui donne la noix de cajou très connue en France. Eh ben, on le plante beaucoup aussi parce que c'est un arbre. Bon, déjà, la noix de cajou, elle est très valorisée, soit en huile, soit en noix de bouche là, pour les apéritifs. Mais aussi la pomme qui est très peu valorisée. On a trouvé des façons de la valoriser en jus, en pâte de fruits qui sont excellentes, en confiture. Et donc, effectivement, pour certains endroits, il y a des arbres qui permettent de valoriser. mais aussi juste devant sa maison ou dans sa cour, où tout d'un coup, ben, on a un peu d'ombre, il fait un peu moins chaud dans la maison, on peut s'asseoir devant chez soi à l'ombre. Ça aussi, c'est très appréciable. Et puis, on a un peu moins de poussière aussi. Donc, c'est très bien.
Alors, vos ambitions montent hein, d'année en année, depuis 2011, depuis la création de Nebedaï. Vous avez planté combien d'arbres?
Je ne sais pas.
200 000, 400 000.
Non, on a dépassé le million parce que l'an dernier, on a planté plus de 500 000. Et cette année, on est déjà à 666 000 parce qu'on a lancé l'opération 600 000 arbres. On a franchi la semaine dernière les 600 000. On est à 666 000. On va continuer à planter parce qu'on a encore des arbres en pépinière. Donc, on va continuer à les planter.
Dans quelle zone ?
C'est assez varié. On a dans la région de Fatick essentiellement, mais on va planter un peu à Richartol au nord. Pas beaucoup, mais de plus en plus aussi, on va planter au nord. Au nord, c'est beaucoup plus compliqué, hein, parce que là-bas, il pleut encore moins. Mais il faut y aller aussi dans les endroits très durs. Donc là, c'est un peu dans le centre du pays, un peu, essentiellement. Le gros de nos plantations sont là-bas.
Et quand vous plantez, justement, pour que ce soit bien préservé, vous sensibilisez la population, vous leur expliquez pourquoi c'est important, comment préserver ces arbres?
Alors, quand c'est dans des périmètres agroforestiers, c'est en association de culture, avec les femmes qui font du maraîchage en
même
temps.
Mais ça, c'est traditionnel.
C'est traditionnel, ça marche très bien. Quand c'est dans les écoles, les enfants, ils s'approprient bien parce qu'il y a des animateurs qui passent, on travaille avec les enseignants. Quand c'est dans les forêts, c'est plus compliqué parce que le suivi est compliqué dans les forêts. D'ailleurs, c'est là où on a le plus de mortalité. Mais dans tous les cas, avant les campagnes de plantation, on fait des tournées de cinéma débat dans les villages et on en fait aussi a posteriori. Donc avant la pluie, pendant la pluie, on en fait trois campagnes sur les plantations d'arbres. Et puis dans les villages, les gens, s'ils veulent un arbre, c'est eux qui font leur trou, c'est eux qui trouvent leur protection. Donc ça veut dire qu'il y a eu de la sensibilisation avant, une appropriation, parce que comme dit, hein, le plus important, c'est vraiment de le protéger et faire qu'il vive cet arbre. Donc, il faut mettre beaucoup d'énergie à ça.
J'imagine que vous avez suivi la mobilisation internationale contre les feux de forêt en Amazonie. On en a beaucoup parlé. Emmanuel Macron, le président français, en a fait un sujet prioritaire du G7 il y a très peu de temps. Comment est-ce que vous avez réagi à cette excitation, j'ai envie de dire, alors qu'au même moment, les forêts du bassin du Congo brûlaient aussi? Comment est-ce que vous avez perçu cela, vous, du Sénégal?
Ben, ce qu'on a perçu, bon, en tout cas, c'est bien qu'il y ait une prise de conscience internationale sur toutes ces menaces de toutes nos forêts du monde. C'est vrai que c'est pas du tout que l'Amazonie. En Afrique, ça brûle tout le temps. Au Sénégal, on a 2000 feux de brousse par an. Alors oui, c'est des forêts sahéliennes, mais elles brûlent aussi. Et ça empêche la régénération naturelle. Et c'est pas, et ça se reproduit encore et encore d'année en année. Donc, moi, je pense que c'est très positif qu'il y ait cette prise de conscience et que ça puisse aussi mettre le projecteur sur le continent africain. Parce qu'on est en grande souffrance, nous aussi. C'est le poumon de la planète, mais c'est également la survie des gens qui vivent dans ces pays-là. Donc, à la fois, c'est un impact négatif sur le climat, mais c'est un impact négatif et immédiat sur les populations autochtones. Donc, il est temps que la communauté internationale se réveille sur ce sujet et regarde un peu tout ce qui se passe à travers le monde. Et en particulier, en zone sahélienne, dans les endroits où il pleut jamais. Donc là-bas, c'est le désert après.
Est-ce que les autorités sénégalaises sont sensibles à ces sujets ?
Les autorités sénégalaises, depuis quelques mois, il semblerait que le nouveau mandat du président sénégalais est basé sur l'environnement. En tout cas, il donne des signes forts. Et surtout, ce qui m'encourage beaucoup plus que ça, c'est la société civile. Aujourd'hui, quand même, depuis quelques temps au Sénégal, et ça, c'est vraiment l'espoir. Il est plus encore dans la société civile, je pense, en tout cas, c'est qu'il y a tout un tas d'initiatives locales. De gens qui se lèvent pour planter des arbres, des petites associations locales. Nous, on est très sollicités. D'ailleurs, on essaye de répondre autant que possible à des petits groupements qui ne savent pas trop comment faire pour planter. Ils n'ont pas d'arbres, alors on leur amène des arbres.
Ça ne va pas diminuer avec cette émission. Vous êtes prêts,
hein ? On est prêts. Il n'y a aucun problème. On est prêts. On est une grande équipe à Nebedaï. On est une trentaine de personnes qui sont sur le terrain. Moi, je suis là, mais les gars, ils sont là-bas en train de planter et on est dispo. Et donc, il y a plein d'initiatives locales qui nous donnent de l'espoir. La société civile se réveille sur le problème des déchets et sur le problème des plantations. Donc, on croise les doigts, on touche du bois, on en a besoin.
Oui, du bois, c'est le cas de le dire. Et alors, vous avez fait justement un camp climat avec d'autres, hein, sur l'île de Bamboung, en plein cœur du Siné-Saloum, avec Alternatiba Dakar, les éclaireuses et les éclaireurs de la région de Dakar, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Tout ça, vous avez travaillé ensemble. C'était une belle émulation, ce camp.
C'était super. Il y avait 300 jeunes, je ne sais pas, au moins une dizaine de nationalités, essentiellement des jeunes sénégalais dakarois. Mais il y avait plein d'autres nationalités, plein de jeunes enthousiastes qui ont vécu, je pense, 10 jours assez incroyables parce qu'ils se sont retrouvés à camper sur une île isolée, sans électricité, avec un accès à l'eau réduit, avec des pluies quasi quotidiennes. Et donc déjà, rien que de vivre dans des conditions comme ça, surtout pour des jeunes urbains, je pense qu'ils ont vécu la nature autrement. Et puis ensuite, il y a eu plein d'ateliers magnifiques avec plein d'intervenants, à la fois des 4 organisations qui ont mis en place ce camp climat dans cette aire marine protégée du Bamboung, mais également d'autres intervenants qui nous ont parlé gestion des déchets, qui nous ont parlé purification de l'eau, qui nous ont parlé. Et donc, c'était vraiment très, très chouette, une belle émulation. Et je pense que beaucoup de gens qui vont se battre pour la nature et l'environnement et pour la sauvegarde du climat.
C'est une autre forme de pépinière. Et vous participez aussi à la préservation d'espaces protégés au Sénégal. La forêt classée de Sangako, la forêt classée de Dior, la forêt classée de Cœur Sambel, enfin des forêts comme ça aussi communautaires, parce qu'il faut accompagner, c'est pas uniquement classer des espaces, il faut derrière préserver quelque part ces aires protégées.
Effectivement, on est dans plusieurs aires protégées, également dans certaines aires marines protégées, comme l'aire marine protégée de Joal ou la réserve naturelle communautaire de Palmarin, où on travaille aussi sur les aspects marins. L'idée, c'est de donner du pouvoir aux populations riveraines de ces aires protégées en matière de gestion des ressources naturelles de l'air protégé, et de dire que plutôt que de faire une conservation intégrale par l'État, de faire une co-gestion avec l'État et les populations locales, tout ça organisé, et de déterminer des règles d'exploitation durable de ces ressources-là. Donc on a des rotations, par exemple, sur les forêts sur 8 ans, où on a déterminé juste une ou deux espèces qui sont exploitables selon certains diamètres. Donc disons que la pression est telle sur les ressources qu'il vaut mieux essayer de dire on va les exploiter, mais de manière rationnelle et organisée, Et par contre avec du contrôle, plutôt que de dire on n'exploite rien, parce que c'est ça la règle normalement, et en fait on n'arrive pas à gérer et tout le monde triche. Donc nous on essaye d'accompagner et donner du pouvoir avec les autorités des eaux et forêts, hein. Donc ce sont souvent des forêts classées de l'État, mais qui sont co-gérées entre l'État, la mairie et les collectivités locales et les populations organisées, et Nebedaï accompagne le processus.
Jean Gob, comment est-ce que vous conservez la foi du combat? Ça fait des années que vous vous battez pour la préservation de l'environnement. Tous les matins, vous vous dites, allez, c'est un nouveau jour, un nouveau combat.
En fait, c'est plein de petites victoires qui font plaisir. C'est une journée dans une école avec des enfants qui s'occupaient tellement pendant des mois de leur petit arbre qui est devenu grand et qu'ils ont les yeux qui brillent. Donc c'est des petits moments, des petites sensations, des petites victoires. Les femmes de Bassar, extraordinaires, avec leurs 120 foyers fabriqués. Toutes les dames, quand on rentre dans leur cuisine, elles te remercient, elles sont trop contentes. Leur plat, il reste chaud pendant 3 heures de temps. Donc c'est plein de petites victoires comme ça qui nous donnent de l'énergie et nous fait tenir. Mais je pense qu'il faut qu'on aille plus vite, parce qu'aujourd'hui, la déforestation, la pression sur les ressources est beaucoup plus rapide que nos petites actions au niveau d'une organisation comme Nebedaï. Et donc, il faudrait qu'on arrive à faire beaucoup plus, ou il faudrait qu'il y ait beaucoup d'autres gens qui fassent.
Vous êtes en lien avec beaucoup d'associations dans d'autres pays, même des pays voisins.
Oui, on est en lien avec des gens au Burkina, au Mali, en Guinée, mais il faut qu'aujourd'hui l'aide internationale arrive sur le terrain. Je pense qu'il y a beaucoup d'aide internationale, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, mais ce qui arrive sur le terrain, c'est trop faible. Je pense qu'il y a des déperditions énormes entre le départ de l'aide internationale qui quitte les Nations Unies, qui quitte les États avec les accords de climat, et lorsque ça arrive sur une action concrète sur le terrain. Ça passe par 4, 5, 6 organisations internationales qui ont des coûts de fonctionnement énormes et qui, de toute façon, aucun d'entre eux n'arrive sur le terrain. Et je pense que ce système-là, alors ce n'est pas forcément facile de trouver le système, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite sur le terrain. Déjà, ça met 3 ans à arriver sur le terrain et il y a des déperditions. Il y a même pas un quart de l'argent de l'aide au développement qui arrive sur le terrain. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on aille vite. On n'a plus le temps. La planète fout le camp. L'homme est en train de la détruire. Et les gens qui agissent concrètement sur le terrain, il y en a plein sur cette planète-là. Ils doivent être aidés beaucoup plus. Et essayons de diminuer la paperasse et la bureaucratie. Parce que ça nous tue.
Merci Jean-Gueb d'être passé dans C'est pas du vent. On peut tout trouver sur votre site. Hein. Vous avez fait un gros travail là aussi de pédagogie. Et votre site, c'est www.nebedai.org. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Anne-Cécile.
Franco-camerounais reprend Ancien combattant dans C'est pas du vent sur RFI, morceau hommage à l'Afrique sacrifiée, à l'Afrique engagée. Aujourd'hui, le combat se livre aussi au cœur des Palétuviers, une réserve de biodiversité qui vit au rythme des marées et qui est bien menacée. L'urbanisation des littoraux, la création de bassins pour l'élevage des crevettes et l'érosion côtière ont causé la disparition de la moitié des mangroves du monde en seulement un siècle. Vous avez bien entendu perdu. Alors pour enrayer ce déclin, le WWF travaille depuis une dizaine d'années avec les villageois de Madagascar. Pauline Bandelier est allée les rencontrer.
Depuis deux jours, les habitants du village d'Amboigno, à un mot d'une cinquantaine d'habitants de la région de Melaky, dans l'ouest de Madagascar, participent à une campagne de replantation de la mangrove en partenariat avec le WWF, des associations locales et une représentante du ministère de l'Environnement.
Monsieur, il faut enlever ce que vous avez déjà planté parce que ce n'est pas aligné. Il faut replanter. Voilà, ici c'est le bon endroit.
La région compte environ 50 000 hectares de mangroves sur 320 000 pour toute l'île. Depuis 2007, le WWF Madagascar soutient un consortium d'associations locales impliquées dans la restauration des mangroves. L'objectif, faire prendre conscience aux habitants de leur importance, explique Judikael Rakotondrazafi, conseiller technique au WWF.
La mangrove assure la purification de l'air, la purification de l'eau en termes de séquestration ou de fixation des carbones de l'air. Les mangroves absorbent trois fois les carbones absorbés par les forêts tropicales, par exemple, et aussi le rôle primordial des mangroves aussi pour la population locale. C'est dans les mangroves que la population collecte des bois pour la construction de leurs maisons, pour la construction des clôtures, pour la fabrication des poutres aussi. En termes socio-économiques, la mangrove est comme une sorte de maternité pour les espèces aquatiques comme les crabes, les crevettes et les poissons. C'est une zone de ponte très importante pour les poissons surtout. Et un habitat des crabes, les juvéniles des crevettes passent une stade de leur vie dans les mangroves. Donc s'il n'y a pas de mangroves, il n'y a pas de crabes, qu'il n'y aura pas aussi de crevettes.
Un écosystème menacé puisque la mangrove malgache a perdu 10% de sa superficie en 40 ans. Son rôle de barrière naturelle de protection pour les zones côtières représente pourtant un atout considérable pour Madagascar, 8e pays au monde le plus menacé par le réchauffement climatique. Fanja Olga Rasso Andrasana est pêcheur et elle a 45 ans. Elle fait partie d'une association locale pour la protection de la mangrove et participe depuis 10 ans aux activités de replantation et de restauration.
Avant, il y avait des mangroves ici, mais elles ont été détruites. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je connais l'importance des mangroves. C'est grâce à elles que je peux me nourrir et collecter du bois. C'est pour ça que je m'implique dans leur protection. Je ne le fais pas seulement pour moi, mais aussi pour mes petits-enfants.
Après l'activité de restauration, nous nous rendons à quelques kilomètres de là, au village de Benjaville, entre mer et mangroves. Aujourd'hui, l'ambiance est à la fête, car les pêcheurs de poissons viennent de recevoir des nouveaux filets de pêche offerts par le WWF. Des filets qui leur permettront d'attraper un plus grand nombre de poissons. Clément Joseph Rabenandrasana est un pêcheur de 36 ans. Il y a 3 ans, le WWF lui a donné 3 balances à crabes pour remplacer ses pièges à crabes traditionnels. Une nouvelle méthode qui lui a permis d'augmenter ses revenus.
Avec la nouvelle technique, mon rendement a beaucoup augmenté. Avant, je ne récoltais qu'un crabe par piège. Aujourd'hui, cela peut aller jusqu'à 4 ou 5 crabes. Mon revenu a augmenté de 50% et j'arrive à pêcher jusqu'à 15 kg de crabes par jour.
Le lendemain matin, j'ai rendez-vous avec Fidel Raheri Manansoa, socio-organisateur du WWF, pour aller accompagner Clément Joseph dans sa pêche matinale. Il est 5h30 et il fait encore nuit, mais le village est déjà bien réveillé.
C'est là qu'il vaut mieux venir pour pêcher le crabe, c'est ici?
C'est ici.
On les trouve comment, les crabes?
Dans l'eau des Sénales, aux alentours de mangroves.
Ce sont les mangroves qui permettent aux crabes de se reproduire.
Oui, c'est ça. Parce que ce sont les feuilles de mangrove mortes qui tombent au-dessus que le crabe mange.
Nous retrouvons Clément Joseph qui nous attend avec sa pirogue. L'eau est à marée basse. Lorsque nous arrivons, il doit tirer sa barque dans la boue pendant plusieurs mètres avant de pouvoir naviguer.
Je peux passer sur la terre peut-être ?
Non, c'est trop profond.
Ah !
Une fois dans le chenal, Clément Joseph jette ses trois paniers à crabes dans l'eau. Dans 20 minutes, il viendra vérifier si des crabes sont montés dans le filet. De retour sur la terre ferme, Clément Joseph nous explique pourquoi, depuis 2014, il participe aux activités de restauration de la mangrove.
Avant, je ne savais même pas quelle était la relation des crabes avec les mangroves, ni qu'il était possible de restaurer cette mangrove. Mais aujourd'hui, j'ai bien compris que la mangrove est l'habitat des crabes et des crevettes. Donc, s'il n'y a pas de mangrove, il n'y aura ni crabes ni crevettes.
Comme Clément Joseph, beaucoup de villageois ont changé leurs pratiques grâce au travail de sensibilisation mené par les comités de base chargés de la protection des mangroves dans chaque village. Afazé Binazi, président du comité de base de la commune de Benzaville, qui compte 1600 habitants, dit avoir constaté un changement au sein des communautés et une baisse des défrichements de 80% de la part des villageois.
J'organise des réunions et je fais des exposés sur l'importance de la mangrove et son impact sur la pêche. Et j'explique qu'il y avait avant beaucoup d'arbres ici, mais qu'ils ont été détruits. Petit à petit, les gens changent leurs pratiques traditionnelles. Avant, si les gens voulaient couper un arbre, ils déracinaient tout autour. Maintenant, ils entrent dans la forêt pour prendre seulement ce dont ils ont besoin. Donc, il n'y a plus de défrichement à grande échelle.
Si la déforestation massive et le pillage des ressources maritimes restent critiques à Madagascar, les habitants de Benzaville connaissent aujourd'hui l'importance de la mangrove et savent qu'en la protégeant, ils contribuent à leur survie et à celle de leurs enfants.
Un reportage de Pauline Bandelier réalisé par François Porcheron, comme la totalité de cette émission.
Sorina, ai trvaine de sunrina, via vananiwo, cia zovela, anul vai tige, atamnela, mafnarte.
Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez dialoguer avec nous sur les réseaux sociaux et nous réécouter en podcast sur l'application Pure Radio de RFI. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.